Invitez, si vous avez votre Bible en séjour, de l'ouvrir dans Apocalypse au chapitre 3 et nous ferons notre lecture partant du verset 14 au verset 17e. Apocalypse, chapitre 3, du verset 14 au verset 17. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Et le Seigneur se présente. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et directement, il fait une affirmation, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Dans la suite de ce que Dieu nous a mis à cœur depuis bientôt 3 semaines, je parlerai en ce jour sur le thème « Je te vomirai ». Je te vomirai. Parole dure sortant de la bouche du Seigneur. Je te vomirai. Ce texte d'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 17, est un texte fort, mais aussi un texte riche. Fort, mais aussi riche pour 3 raisons que nous allons voir. La première raison pour laquelle ce texte est à la fois fort, mais aussi riche, c'est qu'il montre le cœur d'un Dieu actif. Un Dieu qui prend l'initiative. Il fait les constats d'une marche qui ne lui plaît pas, d'une façon d'être et de faire, qui ne répond pas à ce que lui, il a eu à cœur pour son peuple. Mais il ne reste pas les bras croisés. Il prend l'initiative. Il envoie un message. Au début du verset 14, il est dit « Écrit ». À l'ange de l'église de Laodicée, à cette église qui ne se comporte plus bien, à ces groupes d'hommes et de femmes, j'ai vu leur façon d'être et de faire, mais je ne veux pas rester passif, je veux faire quelque chose. Je prends l'initiative afin de leur tendre la perche pour qu'ils changent. J'écris à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Cette initiative nous rappelle celle de Genèse au chapitre 3, versets 8 à 9, où malgré que nos pères, nos premiers parents, Adam et Ève ont fauté, se sont mal comportés, sont sortis de la volonté de Dieu, je pourrais même dire mieux, ont dévié, Dieu n'est pas resté passif. La Bible dit, alors l'homme et la femme entendirent la voix de Dieu qui parcourait les jardins vers le soir, il vient vers eux. Je bénis Dieu d'avoir un Dieu qui prend l'initiative. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Un Dieu qui prend l'initiative. Verset 9 de Genèse 3. Mais l'Éternel Dieu appelle à l'homme et lui dit, qui es-tu? Il appelle, il prend l'initiative. Je me réjouis, comme je le disais, d'avoir un Dieu qui vient vers moi, qui ne reste pas là où il est, qui ne me laisse pas dans mon mal, dans mon égarement, dans ma déviation. Dans Luc au chapitre 15, verset 4e, ainsi que le verset 8, je peux même ajouter aussi le verset 20, Christ révèle le cœur du Père, qui chaque fois prend l'initiative au travers de ces 3 paraboles. Le verset 4 dit, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, encore l'initiative. Pourquoi s'est-elle perdue? A-t-elle fait ça d'elle-même? Mais les bergers prennent l'initiative d'aller chercher. Je ne veux pas la laisser. Et même en laissant les autres brebis, il les met en danger. Verset 8. Ou quelle femme, si elle a 10 pièces et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, n'éballe la maison. Et j'aime ce qu'il est dit, ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle retrouve encore l'initiative. Et le verset 20 confirme cela. Un père qui avait 2 enfants et qui en a perdu 1. La Bible dit, comme il était encore loin, ses fils revenaient avec un cœur partagé. Vu tous les dégâts que j'ai eu à faire, vu toute l'humiliation que j'ai apportée à mon père, va-t-il me recevoir? Sera-t-il ouvert? Elle avait dit, comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Encore l'initiative. Deuxièmement, ce texte est fort. Mais aussi riche. Pour une deuxième raison sur laquelle nous allons rester assez longtemps. Fort. Mais riche. Car il montre les cœurs pleins d'amour d'un père pour ses enfants. Un père qui ne nous veut que du bien. J'aime comment Ézéchiel, chapitre 33, au verset 11, nous révèle un pan du cœur de ce grand Dieu que nous avons. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. » Voici le cœur de Dieu. Il ne veut pas que je puisse périr. Il ne veut pas que tu puisses périr. Il ne veut pas que nous puissions être perdus éternellement. Il veut que nous puissions vivre. Il veut que nous puissions changer de conduite. Et ce cœur, dans ce merveilleux passage d'Apocalypse 3, se révèle au travers de 4 choses. Premièrement, une information qui est donnée et une information importante. Deuxièmement, un constat. Troisièmement, un conseil. Et puis enfin, un avertissement. Je reprends ces 4 choses. Il y a une information qui est importante. Il y a un constat négatif. Il y a un conseil. Et quatrièmement, il y a un avertissement. Information, constat et conseil sont au présent. Mais tandis que l'avertissement appartient au futur. L'information nous est montrée dès le début du verset 15. Laodicée, qui est peut-être ton image, qui est peut-être mon image, qui se comporte d'une manière, et Dieu vient de manière solennelle dire à Laodicée, je connais tes œuvres. Je suis au courant. Je n'ai pas besoin d'être informé. J'ai accès à tout ce que tu es, que tu fais. Laodicée, je connais tes œuvres. Dieu me dit de dire à quelqu'un ce matin, il connaît tes œuvres. Roland, il connaît tes œuvres. Des choses que tu peux cacher à ta femme, mais lui, il connaît. Des choses que tu peux cacher à ton mari, mais lui, il connaît. Des choses que tu peux cacher à ton fiancé, lui, il connaît. Des choses cachées à tes parents, mais lui, il connaît. Il dit, je connais tes œuvres. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être informé. Tu peux cacher ces choses à d'autres personnes. Tu peux paraître ou jouer un rôle aux yeux des autres. Mais moi, je suis au courant de tout. Dans Jean chapitre 1er, au verset 48, alors qu'il détaille à Nathanaël tout ce qui concernait sa personnalité ainsi que son caractère, celui-ci est étonné parce que c'est la première fois qu'il se rencontre. Il regarde et dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Écoutez, Nathanaël, d'où me connais-tu? D'où me connais-tu? Comment as-tu accès à ces informations? Et j'aime la réponse du maître. Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais assis sous les figuiers, je t'ai vu. Et quand Christ parle comme ça, il veut montrer 2 choses. Parce que le figuier avait tendance à produire des feuilles qui pendaient quasiment jusqu'en bas. Et les gens aimaient beaucoup se mettre Quand quelqu'un était sous les figuiers, il était quasiment couvert parce que le feu allait quasiment jusqu'à toucher la terre. Et Nathanaël ne comprend pas. Moi, j'étais sous un abri. Comment m'a-t-il vu? Mon pasteur disait, Dieu est capable de voir une fourmi noire assise sur un rocher noir et dans la nuit la plus sombre. Il se le voit. Il n'a pas besoin d'être informé. Voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Il dit, d'où me connais-tu? Dans Jean chapitre 2, versets 24 à 25, c'est Christ qui parle à ce groupe. La Bible parle plutôt de Christ et de sa capacité à connaître tout ce qui était dans l'homme. Écoutez ce qu'il dit. Il ne se fiait point aux hommes parce qu'il les connaissait tous, parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage sur aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Vous n'avez aucune idée des fois des choses que celle que vous appelez chérie avec eux à la fin vous cache. Celui que vous appelez mon chou, mon bébé, baby. Vous n'avez aucune idée des secrets d'État qu'il cache et dit ça, je ne dirai jamais. Je me retrouve en 2001 recevant un jeune couple au bureau. Cela faisait 4 ans qu'ils étaient mariés, ils n'avaient pas d'enfants. 4 fois, 5 fois, fausse couche. Et l'homme a craqué, je n'oublie pas le premier entretien, il vient me voir au bureau. Pasteur, pourquoi Dieu peut nous faire ça? Je me suis marié, je n'ai jamais connu de femme. Et ma femme aussi s'est mariée, vierge. Pourquoi Dieu peut nous faire ça? J'ai dit à cet homme, amène ta femme. Et nous allons parler au bureau, nous étions avec un autre frère. Et ce bien-aimé avait un don de parole de connaissance pointu. Et dès que la dame et l'homme sont arrivés, on a commencé juste à faire la prière. Seigneur, bénis ces instants. Il m'a soufflé quelque chose à l'oreille. Et je n'ai pas su le dire directement devant l'homme. On a parlé de tout et de rien. Puis j'ai demandé à l'homme s'il pouvait nous laisser un petit moment. J'ai demandé à la femme, c'est vrai que tu t'es mariée vierge? Oui, pasteur. Vous connaissez les réponses officielles. Ton homme, c'est ton premier homme? Oui. Je dis, voici ce que ce bien-aimé qui est à mes côtés m'a dit. Il m'a dit, dès que tu es rentré, il t'a vu portant un masque. Et le masque avait tendance à tomber, tu faisais un effort. Et Dieu me dit de te dire que tu as double visage. La deuxième image que mon frère a dit, il a vu 4 boîtes de sardines. Qu'on ouvrait, et plutôt 5 boîtes de sardines, la cinquième. Et chaque fois, il était écrit 2,5, 3,5. Non, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 et 5,5. Et la cinquième, 5,5, il y avait comme des tomates qui sortaient. Il dit, Dieu m'a dit de te dire que tu as fait 5 avortements. Et le cinquième, tu avais perdu beaucoup de sang. Sans te faire du chantage, est-ce vrai ou faux? J'ai simplement entendu, elle a fait pipi dans les habits. Elle a simplement baissé la tête, oui pasteur. Donc tu t'es pas marié vierge. Oui, pasteur, pas vierge. Des fois, vous avez l'impression d'avoir une innocente à vos côtés, mais est-ce coupable à mener à la CPI? Qui vous fait avaler une version officielle. Vous savez, il y a des informations, quelqu'un a juré, dit, oh, il n'y a pas jamais, jamais. Donc, et avant d'appeler les maris, j'ai dit à la dame, bon, que tu aies menti, je comprends, mais comment tu as fait avaler à ton mari que tu étais vierge? Il dit, j'ai des cousines qui ont été des prostituées qui m'ont montré une méthode. On fait bouillir de l'eau, on met quelques herbes et tu t'assieds dessus. 5-6 fois, ton corps s'est rétréci. Et puis le comble, c'est que quelqu'un qui n'a jamais connu, comment il peut faire la différence entre une première fois et une deuxième? Chez nous, à Kinshasa, on dit l'eau qui a été utilisée pour laver un chien. Il va sentir que c'est légèrement salé. Il va dire, ah, cette eau, elle est spéciale. Il ne sait pas que Milou est passé dedans. Et je me suis souvenu combien, 3-4 fois, j'ai prié avec ses frères. Et j'entendais la base de sa prière pour demander à Dieu d'intervenir. Avec larmes, Seigneur, mon épouse et moi, on s'est gardés. Sans connaître, et toi, pourquoi tu fais ça? Dieu regardait, disait, Zoba. Aide-moi à poser la question à ton voisin, qui es-tu? Mais Dieu dit à Laodicée, je connais. Je n'ai pas besoin d'être informé, je connais. Philadelphie, je peux paraître devant vous, donner une impression, mais je ne peux jouer ces jeux que devant vous, Dieu me connaît. Plaise à Dieu que je ne joue pas un jeu. Plaise à Dieu que je ne sois pas quelqu'un qui paraît. Seigneur, aide-moi à être. Il dit à Laodicée, je connais tes œuvres. Je n'ai pas besoin d'être informé. La version Alfred Quinn, traduisant toujours Jean 2, 24 à 25, les dit mieux. Mais Jésus ne leur faisait pas confiance, car il les pénétrait tous. Seigneur, pénétrez quelqu'un en ce jour. Le verset 25 dans Alfred Quinn dit, en effet, il n'avait pas besoin qu'on vienne lui apprendre comment sont les hommes. Il savait parfaitement à quoi s'en tenir, connaissant à fond la nature humaine, et il pouvait lire dans le cœur de chacun. Une première information, je connais. Je connais. Mais deuxième chose, c'est un constat. Il ne s'arrête pas à dire, je connais. Il dit, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Un constat. Tu n'es ni froid, ni bouillant. C'est-à-dire, tu es dans un état ou dans une condition intermédiaire. Tu n'as pas une condition, tu as deux conditions dans une. Tu es au carrefour de deux états. Tu n'es pas froid, mais tu n'es pas aussi chaud. Et le verset 16 utilise même le terme tiède. Quand on parle de tiède, ça veut dire pas suffisamment chaud pour être classé parmi les chauds, mais pas suffisamment froid aussi pour être classé parmi les froids. Ni chaud, ou bouillant, ou ni froid. C'est-à-dire inclassable, difficile à placer dans une classification. Un constat. Qui suis-je? Où est-ce qu'on peut me placer? On raconte l'histoire d'une chauve-souris qui mangeait à deux râteliers. Comme il se disait, je dénature d'un côté mammifère parce que j'ai l'air d'une souris, mais de l'autre côté aussi presque un oiseau parce que je vole. Il a appris qu'il y avait association de souris. Et qu'un grand banquet était offert, et il est allé se présenter. Et toutes les souris venaient en rampant, et ils ont été étonnés l'un de l'autre, atterrissant. Ils ont voulu les chasser, il leur a dit, mais regardez-moi bien, non. J'ai pas l'air comme vous, mais dit, on n'utilise pas les mêmes moyens de transport. Et la semaine d'après, il a appris qu'une autre association des oiseaux organisait une grande réunion, avec un merveilleux repas, il a dit, je veux y aller aussi. Et il est arrivé avec eux en volant. Mais quand ils ont tous atterri, ils ont dit, mais nous, on a des museaux, toi, tu as un bec. Plutôt l'inverse. Nous, on a des becs, toi, tu as un museau. Qu'en est-il? Il dit, ne suivez pas ça. Les critères, c'est elle et je vole. Le comble, c'est la semaine d'après, où il avait reçu des invitations, mais il n'avait pas fait attention. Les deux avaient organisé un banquet, mais c'était face à face. Et il venait comme à son habitude, il dit, je commencerai là, et je finirai de l'autre côté. Et dès qu'il venait, il venait avec les oiseaux, il disait, oh, ça c'est un des nôtres. Mais quand il veut atterrir, les souris viennent, il dit, oh frère. Il est arrivé au milieu, à chaque côté, on les réclamait. Il a regretté, il dit, j'aurais voulu que ces fêtes puissent avoir lieu deux jours différents. Aide-moi à poser la question à ton voisin, chauve-souris ou pas. Deux natures dans une, ni totalement l'une, ni totalement l'autre. Tu n'es ni bouillant, ni froid. Mais bizarre, après avoir fait ces constats, bizarre, Dieu donne un conseil. Un conseil qu'on retrouve à la fin du verset 15. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est-à-dire Dieu refuse les deux natures. Il dit, j'aurais voulu que tu fasses le choix d'une nature. Et le fait d'être bouillant, ça veut dire appartenir totalement à Dieu. Les craindre, marcher dans sa crainte. Et le froid, c'est ne pas tenir compte de Dieu. Et bizarre, Dieu préfère encore quelqu'un qui ouvertement prend position. Je n'aime pas Dieu. Je ne veux pas de l'Église. Il dit, ben, puisses-tu être froid? J'aurais voulu que tu assumes ta froideur. Puisses-tu être froid ou bouillant? Mais Dieu refuse la tiédeur. Ce que les anglophones appellent les in-between. Les entre deux états. Puisses-tu être froid ou bouillant? La version française courant va plus loin. Si seulement tu étais l'un ou l'autre. C'est ça ton problème, c'est ça mon problème. On ne sait pas savoir chrétien ou pas chrétien. Tu ne présentes pas suffisamment de critères pour qu'on te dise que tu es chrétien. Mais tu viens aussi tellement à l'église qu'on ne sait pas dire que tu es païen. Mais quand on voit certaines choses que tu fais, certains endroits que tu fréquentes, on a difficile à te classer parmi les païens. Mais quand on scrute aussi ta vie, on dit, un frère me disait, pasteur, celui-là, je préfère l'appeler par son prénom. Ce qu'on a bien dit, frère, il y a un gaspillé combat qui frère. Dieu dit, puisses-tu être l'un ou l'autre? J'aimerais te poser la question, entre 23h et 3h du matin aujourd'hui, tu étais où? Tu as les yeux rouges en venant au culte. Tu aimes ces endroits pleins de lumière. Mais tu ne peux pas te passer du culte. Gaille, premier culte. Et même en quittant vers 3h, tu as dit aux amis, je dois rentrer. Je dois aller au culte. Moi, je suis le fils spirituel de Roland Dallo. Roland qui? Un jour, j'ai été méchant avec une jeune sœur. Elle ne portait pas un habit, c'était un diminutif d'habit. Un morceau d'étoffe. Forte comme on ne peut pas l'être, mais un morceau d'étoffe. J'avais même l'impression que tout le temps, ça allait faire crac comme Hulk. Trois quarts de la poitrine dehors. Et puis, elle venait avec un homme. J'aimerais te présenter mon pasteur. J'ai dit, je ne suis pas ton pasteur. Elle m'a trouvé dur. J'ai dit, si je dois être pasteur de gens comme toi, c'est que j'ai échoué. Chrétienté dans la bouche, mais quand on regarde ton habillement, quelqu'un dit, sa bouche est sauvée pour louer le Seigneur, mais son habillement n'est pas sauvé. Dieu dit, puisses-tu être froid? J'aimerais dire, assume ta froideur. Sois païen avec P majuscule. Il y a des gens, ils iront en enfer, ils sont quand même en paix. En tout cas, quand ils font l'eau, on a mérité. On a des gars dans ça. Là. Beaucoup de sangai vraiment. Mais il y a des gens qui auront passé tout leur temps à venir à l'église. Ne jamais manquer les cultes. Mais ne pas craindre Dieu, passer l'éternité loin de Dieu. À quoi ça sert? Aide-moi à poser la question à ton voisin. Froid ou bouillant? Puisses-tu être froid? Dieu encourage même la froideur. Je préfère que tu sois même froid. Assume cela. Venant à l'église, mais sortant avec des petites filles. Marié depuis 10, 15, 12 ans, mais des concubines sur toutes les rues de Kinshasa. Tu dors avec un téléphone, tu mets même un cadenas pour que ton épouse ne voie pas. avec des mots codés pour parler des concubines. Vous vous souvenez de ses frères qui avaient mis l'une de ses concubines, mon général, et la pauvre dame qui ne savait pas, chérie, mon général à Bengio. Nom de code. Qui es-tu? Puisses-tu être froid ou bouillant? Français courant dit, si seulement tu étais l'un ou l'autre. Venant à l'église, mais sautant avec les maris d'autrui. Venant à l'église, offrant son corps à tous les hommes. J'ai envie de cracher. Tu as 18, 19, 20 ans, tu sors avec des papas de 50 ans, au ventre bedonnant. Quand tu les embrasses, tu as la nausée, mais tout ce qui s'intéresse, c'est l'argent. Sale. Sale. Et tu dis, je suis chrétienne et en plus de Philadelphie. Puisses-tu être l'un ou l'autre? Assume cela. La version parole de vie dit, si seulement tu pouvais être froid ou chaud. Mais Dieu ne se limite pas à donner une information, à faire un constat et à donner un conseil. Dieu donne un avertissement sous forme de verdict, mais verdict pas attaché au présent. Il dit, je te vomirai. Je te vomirai. Cet état entre deux états, je ne le supporte pas. À cause de cet état et de cette condition entre deux conditions, je ne te garderai pas. Je te vomirai. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais j'ai le projet de le faire. J'ai prévu de le faire. Je te vomirai. Le terme vomir ici veut dire deux choses. La première, c'est sur le plan biologique, c'est rejeter ce qui était dans l'estomac. Deuxièmement, arrêter le processus de la digestion en renvoyant dehors ce qui était censé être digéré ou sous le point de l'être. Chaque fois que l'on parle de vomir, on parle toujours de ce qui n'a pas encore dépassé l'estomac. C'est soit avant, soit au maximum au niveau de l'estomac. La seule fois que j'ai vu quelqu'un vomir des choses qui sont allées au-delà de l'estomac, c'est un homme que j'ai connu qui est mort dans des conditions atroces, qui avait fait un cancer de l'intestin, des intestins, et qu'il arrivait qu'il vomissait même les matières fécales. Pourquoi? Parce que tout était bloqué de l'autre côté, et comme ça ne pouvait pas descendre, ça avait tendance à remonter. Dieu dit, je te vomirai. J'étais sur le point de te digérer parce que quand nous mangeons, une partie est libérée, mais l'autre partie devient partie intégrante de notre corps. Dieu est en train de dire, j'étais en train de t'assimiler. J'étais en train de vouloir faire de toi une partie de moi-même, mais vu que tu ne remplis pas certaines conditions, je vais te renvoyer. Je vais te retourner. Y a-t-il des hommes et des femmes qui seront vomis par Dieu ici à Philadelphie? Deuxièmement, ce terme cache aussi une autre idée générale pour dire projeter au dehors quelque chose, mais avec force. Vomir cache toujours l'idée d'un rejet, mais trois fois sur quatre, un rejet violent. Remarquez deux choses. Dieu ne dit pas, tu vas sortir de toi-même. Dieu ne parle pas de cette sortie comme l'initiative de l'homme. Il dit, je te vomirai. Il ne dit pas, tu vas sortir. Les rejets, ça ne sera pas toi. C'est moi, ton créateur, qui veut te renvoyer. Je te vomirai. Ça va venir de moi. C'est moi qui vais arrêter ce processus d'assimilation. C'est mon initiative. Ça va arriver à cause de moi. Cela me fait penser à trois autres passages de la Bible où l'on voit Dieu rejeter. Et presque on peut utiliser le terme vomir. non pas tout le monde, mais des personnes d'une certaine qualité de vie. Matthieu chapitre 7, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Renvoie. Matthieu chapitre 25, verset 34 et verset 31, nous parle de deux mouvements inverses attachés à deux groupes de personnes. Acceptation pour un groupe et même invitation, mais aussi rejet pour les autres. Verset 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Assimilation. Mais le verset 41, ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Apocalypse chapitre 22, verset 14, ainsi que verset 15, abondent dans le même sens que le passage précédent. Invitation et acceptation d'un groupe de personnes, mais rejet d'autres. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais verset 15, dehors, rejet. Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres, dehors quiconque aime et pratique les mensonges. Y a-t-il un menteur ce matin à Philadelphie? Remarquez que le choix du terme n'est pas dû au hasard, car notre Dieu, c'est le Dieu de la précision et de la concision. Il utilise le terme « vomir » non pas au hasard, il sait pourquoi il est fait. J'aimerais encore dire trois idées fortes attachées derrière le mot « vomir » et que je pense ce qui a dû amener le maître à l'utiliser. Premièrement, vomir signifie toujours arrêt d'un processus. Et ça signifie que ça avait commencé. Deuxièmement, les vomissures ne sont pas de belles choses à voir. Jamais. Je vais te vomir. Les bonnes choses que tu as pris par la bouche et qui ont commencé à passer par le processus de digestion. Les mêmes choses, quand ça ressort, ça devient désagréable. J'entends quelqu'un dire « Burk ». C'est exactement ce que Dieu dira te concernant. Pas belle à voir. Mais troisième idée cachée derrière, à part les chiens qui, de temps en temps, récupèrent avec délectation leurs vomissures. On ne récupère jamais ce qu'on a vomi. Jamais. Bon, il y a des choses, des fois j'ai difficile à les consommer pour que ça passe. Les piments doivent accompagner un peu. Mais les vomissures, même si on met les piments, ça reste des vomissures. Et Dieu dit, je te vomirai. Je te renvoyerai à l'extérieur. Je vais te rejeter. Le processus d'assimilation va s'arrêter. Et je le ferai. Je le ferai. Quand il dit « je te vomirai », l'idée qui est cachée derrière, c'est que cet acte est final, définitif et irréversible. De la même manière, on n'a jamais vu quelqu'un récupérer les vomissures. Dieu dit « c'est rejet, c'est définitif, final et irréversible. » Mais ce que j'aime, comme je dis, il ne dit pas « je t'ai vomi ». Il dit « j'ai prévu ça ». Tu peux éviter ça. J'ai prévu ça à cause de ce que tu es. Mais Dieu ne s'arrête pas à dire ce qu'il va faire. Dieu justifie aussi le pourquoi il va le faire. Je vais te vomir, je vais te rejeter. Je vais arrêter le processus d'assimilation. Et dans sa justification, il ne parle pas de ce que l'on fait d'abord, mais de ce que l'on est. Pourquoi? Car ce que nous sommes se révèle et se révélera toujours dans ce que nous faisons. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. J'ai lu plusieurs commentaires Il est éprouvant en gastronomie que les choses très froides sont très faciles à consommer par la bouche. Les choses aussi chaudes. Mais les choses entre les deux, pas évident. L'eau froide veut la consommer en grande quantité. L'eau chaude sous forme de thé ou je ne sais pas moi, de tisane. Mais les entre les deux, ce n'est pas toujours facile. Parce que tu es tiède, je te vomirai. Frères et sœurs, notre Dieu n'aime pas la tiédeur. Pourquoi? Trois raisons. La première, c'est que la tiédeur est un non-état. Deuxièmement, la tiédeur est un état entre deux états. Et troisièmement, parce que la tiédeur est un état intermédiaire ayant les caractéristiques de deux opposés. Un peu du froid, sans être totalement froid, et un peu du chaud, mais sans être suffisamment chaud. Dieu dit, je les vomirai. Tu as un peu du chrétien sans être totalement. Mais tu as aussi un peu du païen sans être totalement païen. Tiède. Et Dieu dit, je te vomirai. Dieu n'aime pas tellement ce non-état appelé tiédeur qu'il accepte même l'opposé. En disant, puisses-tu être même froid. Puisses-tu même être froid. Être froid, ce n'est pas s'intéresser à Dieu, ne pas le craindre, ne pas faire cas de lui par sa vie, sa façon d'être et de faire. C'est mal marcher, ne pas le cacher et assumer cela. J'aime les païens fiers d'être païens. J'aime les païens qui assument, les termes n'existent pas, leur païentude. Mais j'aime pas les un peu chrétiens, les un peu païens. Être bouillant, par contre, c'est prendre position pour Christ, non seulement en parole, mais par les choix de chaque jour dans sa vie, pour lui plaire. Être bouillant, c'est pas seulement venir à l'église. Être bouillant, c'est avoir une qualité de vie dont nous sommes nous-mêmes témoins et Dieu au ciel est témoin. Dans Job, au chapitre 1er, au verset 1er ainsi qu'au verset 8, la Bible nous parle d'un bouillant. Homme plein de moyens financiers, notabilité de son époque. La Bible dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et j'aime la suite. Qu'est-ce que je voudrais que l'on dise de moi un jour cela? Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Bouillant. La version française courante dit, cet homme était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et s'est tenant à l'écart du mal. Est-ce que tu te tiens à l'écart du mal? La version parole de Vidi, c'est un homme droit. On n'avait rien à lui reprocher. Waouh! Il respectait Dieu et évitait les mal. Seigneur, aide-moi à être non pas un prédicateur qui parle d'éviter les mal, mais qui évite les mal. La version La Colombe dit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Mais le verset 8, chaque fois que j'essaie de lire ce verset, c'est comme un coup de poing, un hypercute à mon estomac. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Seigneur, est-ce que tu peux dire ça de moi? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça sort de la bouche de Dieu. Content d'avoir un bouillant. Content d'avoir quelqu'un qui, non seulement a fait profession de s'attacher à lui, mais le démontre par sa qualité de vie. Genèse 39, verset 9, Daniel 1, verset 8, ainsi que 1 Samuel chapitre 2, verset 26, j'aimerais reprendre. Genèse 39, verset 9, Daniel 1, 8, ainsi qu'1 Samuel 2, 26, nous parlons encore de trois jeunes gens bouillants. Philadelphie est remplie. Nos sondages nous font dire quasiment 45 à 48% de jeunes qui ont moins de 25 ans. Êtes-vous bouillant? Est-ce que vous appartenez réellement au Seigneur? Ce jeune homme bouillant, Genèse 39, verset 9, nous a dit, la Bible nous dit qu'il a fait le choix de craindre Dieu et de lui plaire au profit des plaisirs sexuels. au profit d'une promotion canapé qu'il aurait pu avoir. La femme de Potiphar vient lui proposer, couche avec moi. Tout a gagné humainement parlant. En le faisant, sûrement, il sera allégé dans sa tâche. Il aura un traitement de faveur. Il va assouvir ses besoins physiologiques, normaux. Un jeune homme normal comme tout autre. Mais écoutez sa réponse devant ses sollicitations parce qu'il était bouillant. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? J'essaie de m'imaginer la femme de Potiphar qui dit, qu'est-ce que Dieu a à faire dedans? Comment ferais-je un aussi grand mal? Quel est le mal que toi et moi on trouve chacun son compte dans ses plaisirs? Quel intérêt Dieu a? Bouillant, il était. Français courant dit, comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable? J'aimerais te poser la question, jeune homme, as-tu une hiérarchie des choses? Ça, je ne ferai jamais. Il dit, ça, c'est une abomination. Il veut dire, je peux me mettre en colère, mais ça, je ne ferai pas. Comment le ferai-je? Qu'il y ait des jeunes gens qui se disent chrétiens, fiancés, mais qui sont plus actifs sexuellement que les mariés. Du reste, les jours où on vient vous bénir ici, on ne vient que confirmer quelque chose qui existe déjà. Ça me rappelle un ami avec qui on a étudié en troisième grado, un vieux papa, je pense qu'il avait 20 ans de plus que nous. Mais un tricheur avec T majuscule. J'oublie jamais son nom, je vois même encore son visage. Un jour, on avait un examen, je ne sais plus très bien, droit administratif ou quelque chose comme ça. Et on a commencé depuis 10 minutes, et puis le professeur vient et dit, j'avais oublié. L'examen d'aujourd'hui est un syllabus ouvert, lui dit, le mien, il était déjà ouvert. Quand on vient vous bénir ici, vous n'avez aucun empressement à rentrer. Parce que vous avez tout consommé. Un peu comme nous, quand on était petits enfants, on préparait les cadeaux de Noël pour le 25. Et le 24, la nuit, on est tellement impatient. On va dans la chambre de maman, on ouvre déjà, on voit. Et le lendemain, quand on donne des cadeaux à d'autres, ils ouvrent en tremblant, il y a suspense. Nous. Ceux qui ont vécu dans la sainteté, ils ne veulent pas que la fête traîne trop. Vers 23h, on aura ta fête. Mais les tricheurs, continuez, papa, Tobina. Comment pourrais-je faire un acte aussi abominable? Et français courant dit, et pécherai-je contre Dieu lui-même? Bouillant. Parole de vie dit, comment est-ce que je peux commettre un acte aussi grave? Daniel 1:8, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il priait les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Bouillant. La version français courant dit, il prit la ferme résolution de ne pas se rendre impur. Où sont les bouillants qui prennent position pour Dieu et quelquefois au détriment de leurs intérêts? Il y a des choses que nous ne faisons pas, non pas parce que nous n'avons pas envie, c'est parce que nous avons pris position pour Christ. Mais nous connaissons aussi l'impact négatif et dans les temps et dans l'éternité si nous faisons ces choses. Alors que ces deux amis et confrères dans les sacerdoces s'amusaient et menaient une vie de légèreté, la Bible nous parle de la position de Samuel alors que Ophni et Phiné couchaient avec des femmes. J'essaie de m'imaginer chaque soir quand ils rentraient dans leur petite case. Des sacrificateurs en devenir. Ophni disait, moi aujourd'hui j'ai eu cette vie. Mouni maman, on a mouné. La pinde qui est vers moi. C'est ma peine de proposition. La saligra au second. J'aimerais dire, on n'a pas besoin d'un monde propre pour être propre. Il est possible au milieu de la saleté d'être propre. Samuel était dans un environnement corrompu. Il vivait avec deux personnes corrompues, mais il s'est comporté différemment. Mon pasteur Jacques-André Vernon a dit un jour cette belle phrase que je n'ai jamais oubliée. Il a dit, seul un poisson mort est entraîné par le courant, mais un poisson vivant peut aller à contre-courant. Vivant ou mort. Samuel était agréable à l'Éternel et aux hommes. Alors que les autres se comportaient mal, il était bouillant. Samuel 2, 26, la version française qu'on dit, il continuait d'être apprécié par les seigneurs et par les hommes. Frères et sœurs, être bouillant a deux caractéristiques. La première, c'est être bouillant et coûteux. Être bouillant et coûteux, c'est là à trois niveaux. Être bouillant et coûteux par rapport à notre chair, par rapport à notre vieille nature. La Bible déclare que la chair a des désirs contraires. Si on veut être bouillant, l'ennemi numéro un, il ne sera pas lointain. L'ennemi numéro un, c'est nous-mêmes. Deuxièmement, être bouillant sera coûteux par rapport au monde. Le monde ne va pas vous acclamer. Le monde ne va pas dire du bien de vous. Mais troisièmement, être bouillant sera coûteux par rapport aux chrétiens charnels et aux tièdes. 2 Timothée chapitre 3, verset 12, déclare formellement et solennellement, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et la persécution dont il est question, ce n'est pas seulement physique. On peut simplement se moquer de vous. Yo anwarite. Yo Saint-Bakanja. Français courant dit, tous ceux qui veulent vivre et mener une vie fidèle à Dieu dans l'union avec Jésus-Christ seront persécutés. Deuxième caractéristique du fait d'être bouillant, non seulement c'est coûteux, mais être bouillant, ça rapporte. Ça rapporte à trois niveaux. Premièrement, ça rapporte la joie et la fierté du Seigneur par rapport à notre vie. Je prie que Dieu puisse dire du bien de moi, comme il a dit concernant Job. Deuxièmement, par rapport à l'impact et l'influence de notre qualité de vie sur les autres. Quand vous êtes bouillant, vous n'avez aucune idée, les gens vous regardent. Les gens vous observent. Acte 5, verset 13, parlant d'un groupe d'hommes et de femmes qui étaient bouillants, dit, aucun n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. La version Alfred Kuhn dit, le peuple les prenait en haute estime. Être bouillant. Marc chapitre 15, verset 39, nous parle de la réaction du centenier romain quand il a vu la qualité de vie du maître bouillant. C'est mourant sur la croix, quand Christ est mort, il a dit, assurément cet homme était fils de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1er, qui va renforcer Acte 22, verset 20, nous parle de Saul de Tarse qui a assisté à la lapidation d'Étienne. La Bible dit qu'il avait approuvé le meurtre, mais on voit combien il a sûrement été touché. Il a vu cet homme qui priait, qui disait, ne leur impute pas ses péchés. Qu'en jurant aucune parole de malédiction, être bouillant, ça a de l'impact tout autour. Être bouillant, ça a de l'impact là dans ces milieux pourris. Les gens peuvent voir qu'il est possible d'être jeune et chrétien. Il est possible d'être un bel homme et fidèle à sa femme. Il est possible d'avoir des moyens, mais rester fidèle à sa femme. Mais troisièmement, être bouillant fait la joie et le bonheur personnel de voir et de savoir qu'au travers de notre qualité de vie, que l'on appartient réellement et sûrement au Seigneur. Il y a eu des tests, il y a eu des tentations que quelquefois j'ai connues et je n'ai pas eu à les faire. Je suis resté moi-même, j'ai dit « Waouh, nazav mamon nanzambe ». Ça fait du bien. Non seulement que tu ne les fais pas, tu n'as même pas envie de les faire. Et tu te rends compte que réellement, j'ai une nature changée. Mais qu'est-ce donc être tiède avant qu'on termine? Les groupes d'hommes et de femmes qui seront vomis, la tiédeur, qu'est-ce donc? Si c'est seulement être ni chaud, ni bouillant, la tiédeur cache bien des choses que j'aimerais mentionner. La première des choses caractéristiques des tièdes, les tièdes ont un peu du chaud et un peu du froid. Les tièdes, comme je le disais, ne sont pas totalement païens. Ils ont un peu du chrétien en eux. Ils aiment tant soit peu Dieu. Ils aiment l'Église et sont même assidus. Ils ressentent quelque chose dans sa présence. Ne pas venir au culte, ça leur fait un manque. Mais ils aiment aussi le monde. Ils sont attachés au péché. Ils ne peuvent s'en séparer. Paradoxe. Ils aiment les deux. Ils aiment le Seigneur. Mais ils aiment aussi les péchés. Deuxième caractéristique des tièdes, de Corinthiens 6, versets 15 à 16, dit qu'il n'y a point de rapport entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et Bélial, mais les tièdes ont accompli les miracles de faire cohabiter lumière et ténèbres. Ce sont des spécialistes en miracles. Il avait dit, les deux ne peuvent cohabiter, mais eux, ils arrivent à faire cohabiter ça. Ils ont un peu du Bélial, un peu du Christ. Troisième caractéristique des tièdes. Les tièdes ne peuvent pas se passer de Dieu qu'ils ont appris à connaître, mais ne peuvent pas non plus se passer du péché et des convoitises, surtout de la chair. Un tiède me disait un jour, pasteur, si je dois parler du salut de mon corps, je dirais, je suis sauvé de là jusqu'à la hanche. La partie d'en bas a besoin de la grâce de Dieu. Et vous comprenez ce qu'il voulait dire. Et c'est pour ça que j'aimerais te poser la question, toi tu es sauvé d'où à où? Quatrième caractéristique des tièdes. Les tièdes ont l'esprit touché et affecté par sa parole, mais ils ont la chair attachée au péché. Et leur âme comme terrain de combat. Ils expérimentent ce que Romains 7, 18 dit. Les biens que je veux faire, j'arrive pas à les faire. Les mal que je ne vais pas faire, j'arrive pas à les faire. Voici les tièdes. Cinquième caractéristique des tièdes. Les tièdes peuvent être des membres simples de l'Église assis sur les bancs. Mais les tièdes peuvent aussi être dans le ministère. Roland, qui es-tu? Tiède en col pastoral. Tiède en dirigeant une église. Tiède. Sixième caractéristique des tièdes. Les tièdes comme Christ les dirait concernant un jeune homme dans Marc 12, verset 34, ne sont pas dans le royaume, mais ils ne sont pas très loin. Christ a regardé un jeune homme, il dit, tu n'es pas loin du royaume. Vous savez, le plus important, ce n'est pas être proche, le plus important, c'est être dedans. Es-tu dans le royaume des cieux ou es-tu pas loin? Septième caractéristique des tièdes. Les tièdes, à force de naviguer entre deux eaux, finissent par faire comme Apocalypse 3, verset 17 le dit. Ils sont inconscients de ce qu'ils sont. Écoutez ce que le verset 17 dit concernant les tièdes. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ils finissent par croire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas réellement. Ils ont une assurance mal placée. La Bible parle de la nudité, aveuglement, pauvreté, misère, malheur, mais ils ne sont pas conscients de ça. Les tièdes, on sait que Jérémie 7, verset 4 et 7 appelle assurance trompeuse. Quand Jérémie se présente devant les temples, il dit, réformez vos voies. Il dit, ne continuez pas d'avoir cette assurance trompeuse, fausse assurance, croire que l'on est ce qu'on n'est pas, croire que l'on a ce qu'on n'a pas réellement. Huitième caractéristique des tièdes, ils sont faciles à reconnaître. Matthieu chapitre 7 au verset 16 dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Ce n'est pas ici à l'église qu'on les reconnaît, ici tous nous avons l'air d'être consacrés. Ils sont reconnus dans la vie de chaque jour. Dans ce qu'ils font, dans les actes qu'ils posent. Neuvième caractéristique des tièdes. Les tièdes doutent des autres chrétiens. En se disant, ils doivent sûrement en cachette faire les mêmes choses comme nous. Parce que les tièdes estiment que ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est impossible que quelqu'un d'autre ne le fasse pas. Roland Daloana, voilà. Pourquoi c'est pas au monarataire? Ils veulent se conforter dans ce qu'ils sont et ils projettent cela dans les autres. Tala. C'est une manière de se conforter, fausse assurance. Ce n'est pas parce que tu es ça que tout le monde est ça. Dixième caractéristique des tièdes. Les tièdes ont deux attitudes face au salut éternel. La première attitude, soit tu n'as aucune assurance d'être sauvé. Ou alors, ils naviguent entre les deux. Des fois, ils ont l'impression d'être sauvés. Et des fois, ils ont l'impression que ce n'est pas le cas. Les tièdes n'ont jamais rencontré Christ. Ils ont rencontré une église, un lieu de culte. On peut être tiède, avoir une carte de membre, validée depuis 8 ans. mais ne pas être connu dans le royaume des cieux. Onzième caractéristique des tièdes, les tièdes sont indécis. Ils naviguent entre deux courants. C'est à eux que le prophète Élie pensait sûrement quand il dira dans 1 Roi chapitre 18 au verset 21, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? J'ai suivi un message il y a 22 ans apporté par un prédicateur français. Quel message fort, les clochards de l'évangile. Les tièdes naviguent entre deux eaux. Il dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez vers lui. Assumez soit Baal totalement, soit Dieu totalement, mais les tièdes, ils aiment les deux. Douzième caractéristique des tièdes. Les tièdes, tout en venant à l'église, sont éloignés de Dieu. Et ils sont voués au vomissement, à la perdition éternelle. Dans Isaïe 29, verset 13, parlant d'un groupe de tièdes, le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Treizième et dernière caractéristique attachée aux tièdes, ils manqueront l'enlèvement. Et je pense même qu'ils seront les premiers à les comprendre. Le jour où la trompette va sonner, ils se rendront compte réellement, parce que j'ai l'assurance que je partirai. Si c'est un dimanche au culte, ils se rendront compte simplement que le micro est tombé. Le caméraman est parti, le micro est tombé. La chorale, je m'imagine, bon, je souhaite sur tout le monde et tout le monde part. Il n'y a que peut-être deux restes. Dans l'auditoire, est-ce que tout le monde va partir? Les tièdes seront les premiers à se rendre compte. Les païens, les athées, les sans-dieu ne comprendront pas. Il y a un phénomène inexplicable. Mais ils seront les premiers à se rendre compte parce qu'ils avaient une connaissance. Et ils prendront part à une partie de l'histoire de l'humanité la plus sombre, où le salut gratuit que nous avons aujourd'hui deviendra coûteux. La Bible appelle ça la grande tribulation. J'aimerais vous supplier, si vous voulez prendre part à la première session, prenez-y part. Parce que ceux qui rateront les rendez-vous du son de la trompette, parce qu'étant entre deux états, ils auront un salut coûteux, que je prie que nous ne puissions pas avoir. Mais en terminant ce jour, j'aimerais dire trois choses, si je ne les mentionne pas, mon message sera incomplet. La première, c'est que la tiédeur affaiblit les témoignages de l'Église. La tiédeur affaiblit les témoignages de l'Église. C'est à cause des tièdes qui viennent à l'Église, mais qui sont un pied dedans, un pied dehors, que le nom de Dieu et le nom de l'Église est traîné à la boue. Romains chapitre 2, verset 24, parle de ceux dont le nom de Dieu est blasphémé à cause d'eux. Seigneur, aide-moi à ne pas être à la barre de cela. Deuxième chose, la tiédeur est un frein à la conversion de plusieurs qui, quand ils vous voient, ils disent, qu'est-ce que vous avez de plus? Et vous devenez ce que la Bible appelle dans Luc chapitre 17, verset 1 à 2, des sujets de scandale, des pierres d'achoppement. Et troisièmement, la tiédeur est guérissable et n'est pas une condition définitive. J'aime quand il termine dans Apocalypse 3, verset 19, après avoir été dur, il dit à cette église, « Aie donc du zèle et répands-toi. » Tu es tiède, mais tu peux changer. Et pour changer, il faut deux choses. Premièrement, s'arrêter et s'examiner. Comme 2 Corinthiens 13, verset 5 dit, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. » Mais deuxièmement, c'est tourner vers Christ, en lui demandant de faire de vous ce que, humainement parlant, vous n'arrivez pas à faire. J'aime le psaume 61, verset 3. Et je prie que ce soit le cri de quelqu'un lorsque les musiciens s'avancent. Et je prie que la prière et les cris de cet homme soient la prière de quelqu'un. Écoutez ce que le psalmiste dit. Du bout de la terre, j'ai crié à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre. Amène-moi vers la qualité de vie que je veux atteindre, j'arrive pas. Comme les deux dimanches passés, alors que ces merveilleux cantiques ont été chantés à un moment, je demande à personne de fermer les yeux ici ailleurs. Et puis ces trois dimanches, tu me demandes de faire. Les amis, là, c'est...